avec Benoît Marchal.
Bienvenue. Bienvenue pour le 79e épisode Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. Un édito qui est consacré à l'édition non destructrice de photos. Le segment principal qui est une rencontre avec Volker Gilbert. Et enfin, le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement. L'email, iTunes et tous les agrégateurs RSS, donc y compris Netvibes. C'est là également que vous pourrez poster un commentaire, une réaction et retrouver tous les liens de l'épisode. Premier segment, l'édito. Et dans cet édito, je voulais vous parler rapidement de l'édition non destructrice des images. Parce que je trouve qu'avec Photoshop CS3, il y a une évolution vraiment majeure. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait quand on édite une photo? On commence par faire un certain nombre de retouches globales. On va régler le contraste, le point noir, le point blanc, l'atténuation du bruit, l'accentuation globale. Et puis ensuite, on passe, pour certaines photos, on ne le fait pas pour toutes, puis ensuite on passe aux retouches locales. Par exemple, quand on décide d'utiliser l'outil tampon, eh bien, les pixels qu'on va prélever vont évidemment dépendre des choix qu'on a fait avant. Si on modifie un de ces choix, même si on a utilisé l'outil tampon sur un calque séparé, eh bien, il faut refaire le passage à l'outil tampon. Dans Photoshop CS3, ils ont introduit deux outils phénoménal. Les filtres dynamiques, on en a beaucoup parlé. Et l'idée des filtres dynamiques, c'est qu'on va pouvoir appliquer un filtre sans modifier l'image de départ. Et là, ça veut dire par exemple qu'on va pouvoir accentuer une partie de l'image sans modifier son fichier RAW. Le fichier RAW reste éditable en tant que tel. Il faut l'avoir inséré comme étant un objet dynamique. Bien, quand on double-clique dessus, caméra RAW se rouvre, on peut revenir faire des changements et quand on sauve, l'ensemble des filtres qu'on a appliqués sur l'image sont automatiquement recalculés. Ça déjà, c'est extrêmement pratique. Mais ce qui pour moi a vraiment tout changé, c'est l'outil ton direct qui est intégré dans Camera Raw. Parce qu'avec cet outil, vous pouvez essentiellement appliquer l'équivalent d'un tampon. Si après vous prenez votre image et vous l'insérez comme un objet dynamique, quand vous allez double-cliquer dessus, vous allez pouvoir la rouvrir, venir rajouter des morceaux de tampon, le bouger, etc. Et en pratique, pour moi en tout cas, ça change ma manière de travailler petit à petit, il faut le temps de s'habituer au changement, mais ça change ma manière de travailler dans le sens où j'hésite plus à revenir en arrière. J'hésite plus à faire une correction globale plus ou moins bonne, à aller affiner des petits détails, faire des petites corrections locales et puis revenir sur la correction globale. C'est quelque chose qui était impossible avant CS3. Ça fait des gros fichiers, mais ça change la manière de travailler. Alors, je vais quand même préciser deux choses. Premièrement, il est évident que je ne fais pas ça pour toutes mes photos. Parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous me disent « Mais où est-ce que tu trouves le temps de développer tes photos comme ça ?» Je ne le trouve pas, évidemment. Je parle de ce petit pourcentage de photos, infime pourcentage de photos qui sont bonnes. Évidemment, l'essentiel des photos, je les traite de façon beaucoup plus rapide. Voire l'essentiel des photos, je les jette, parce qu'elles ne méritent pas d'être développées. Deuxièmement, je crois que cette manière de travailler de façon non destructrice, c'est un trait de caractère. Il y a de très grands photographes qui ne travaillent que de manière destructrice, ils travaillent directement sur leur image, ils mettent jamais un calque. Donc il ne s'agit pas de dire qu'une démarche est meilleure que l'autre, je crois que c'est simplement une manière différente d'aborder les choses. Dans un cas, on veut se donner de la liberté, fixer ses choix au dernier moment, au moment de l'impression. Dans l'autre cas, on veut fixer ses choix très vite et ça peut participer à une démarche créative. Donc c'est une autre démarche, tout simplement. Deuxième segment, une rencontre avec Volker Gilbert. On va parler d'un de nos sujets préférés tous les deux, les fichiers RAW. La rencontre a été enregistrée il y a quelques jours chez Posté et je les salue au passage. Mais je suis avec Volker Gilbert qui est l'expert du RAW en France. Bonjour Volker.
Bonjour Benoît.
C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Déclencheur. Tu es le spécialiste du RAW en France. Tu es l'auteur de Développer ces fichiers RAW.
Quel titre prétentieux.
Tu es quelqu'un de très modeste et très sympathique en tout cas. Et tu écris en fait ou tu traduis. Tu as traduit quelques livres pour Erol. Tu t'occupes également de photoquestions.com.
Voilà.
J'aimerais bien parler de deux choses avec toi. J'aimerais d'abord revenir un petit peu sur pourquoi on travaille en RAW et Il y a évidemment plein d'intérêts pratiques. On a déjà eu l'occasion de parler beaucoup de fois dans Déclencheur, mais aller un petit peu sur l'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait une photo dans l'appareil photo? Comprendre un petit peu comment le capteur fonctionne, etc. Et de là, comprendre pourquoi, en final, le fichier RAW est quelque chose d'intéressant.
Oui, effectivement, d'emblée, pour commencer, il faut dire que le format RAW, c'est quand même le format natif de l'appareil. Donc, même si vous avez un compact acheté pour 150€ dans un supermarché, ce compact va toujours saisir l'information de l'image en format RAW. Même si effectivement derrière, vous n'avez aucun moyen d'exploiter cette information, puisqu'il est converti automatiquement par votre appareil. Le capteur, donc là on parle effectivement du principe du capteur CCD au CMOS.
Ok, donc il y a le Foveon, il y a le super CCD chez Fuji, il y a le nouveau, peut-être le nouveau brevet de Nikon, etc. Mais on va rester sur ce que la plupart des gens ont, c'est-à-dire le capteur CCD ou le capteur CMOS traditionnel.
À la base, en fait, le capteur est disposé d'une matrice Bayer qui permet justement de réparer où sans les couleurs dans une image. Donc, lorsque la lumière arrive sur le capteur, elle traverse ces filtres en couleurs qui sont donc rouge, vert, bleu, le vert étant doublement plus représenté en fait, parce que ça correspond à la visée humaine. Une fois qu'il traverse ce capteur, en fait, le signal est recueilli. Il s'agit à ce moment-là qu'un simple signal électrique, converti par un convertisseur analogue digital. À partir de là, il y a le dématrissage en fait qui intervient. En fait, le dématrissage c'est un calcul mathématique très très complexe qui va simplement attribuer les bonnes couleurs aux pixels qui l'ont recueilli.
Donc, on a l'image noir et blanc. Sauf que, parallèlement à cette image noir et blanc, on sait qu'en fait, ce point-là qui est noir et blanc, il aurait dû être rouge puisqu'il y avait devant un filtre rouge. Celui-là, il aurait dû être bleu. Celui-là, il aurait dû être vert. Et comme ça, on va pouvoir recalculer l'information de couleur.
Exact.
Alors, le fichier RAW, concrètement, donc le capteur, il a reçu une intensité lumineuse, il l'a transformé en intensité électrique, puis on l'a transformé en un nombre qui représente l'intensité électrique.
Donc en fait, ce n'est qu'une suite de chiffres, finalement.
Et le fichier RAW, c'est...
C'est un enregistrement, en fait, de l'information brute recueillie au moment de la prise de vue.
Qu'est-ce qui fait, en final, qu'avec un RAW, on peut plus facilement... par la suite, corriger des erreurs de balance de blanc, corriger des erreurs d'exposition.
En fait, pour savoir ça, il faut simplement regarder comment ça se passe au format JPEG. Parce que lorsqu'on fait des photos en format JPEG, en fait, l'appareil convertit soi-même, grâce à son processeur d'image intégré, l'image RAW en image couleur RVB. Et à ce moment-là, en fait, il va effectivement appliquer une petite courbe de transfert justement pour compenser le gamma qui est de 1,0 à la prise de vue et qui doit être de 2,2 en fait au final. Il va effectivement appliquer un profil couleur et il va justement attribuer ces couleurs en fait à chacun de pixels. Et le problème, c'est que lorsque vous travaillez en format JPEG, tous les paramètres que vous avez choisis dans le menu de votre appareil ont une influence directe sur le résultat. Donc, si vous sélectionnez une balance de blanc, par exemple, lumière du jour, et vous travaillez en tungstène, vous récupérez forcément une image, en fait, dont la tonalité et la couleur n'est pas correcte. Ainsi suite pour l'accentuation, pour le contraste, pour la saturation des couleurs, etc. Donc, il faut effectivement comparer le format JPEG à un tirage papier qui n'est pas vraiment destiné à être retravaillé, à être modifié. Le format RAW va simplement recueillir l'information brute et tout le traitement est fait ultérieurement dans votre logiciel de traitement RAW. Aucun des paramètres du style saturation, accentuation, balance de blanc, contraste n'est fixé encore. Donc vous pouvez intervenir sur tous ces paramètres en fait librement et avec un certain droit à l'erreur dans le processus qui se déroule sur l'ordinateur.
Moi j'aime à dire que quand on travaille en JPEG, on est un petit peu comme si quand on travaille en film, on avait mis un filtre à effet devant son appareil. Tu sais, ces filtres un peu cheap qui étaient vendus et qui faisaient des effets d'étoiles, des choses pareilles. Si l'effet avait été bien appliqué, ça donnait une très belle photo. Si l'effet avait été mal appliqué, on était coincé, on savait pas le défaire. On savait pas au tirage défaire la chose. Et je compare le JPEG un peu à ça. Donc si on a bien fait ses réglages, on aura une bonne image, effectivement. Si on les a pas bien fait, si l'effet est pas génial, si ça fait un peu cheap, si on s'en lasse dans un an ou deux, on saura pas le défaire.
Non, mais effectivement, il y a toujours une discussion parmi les photographes qui disent voilà, le format RAW est fait pour les mauvais photographes, justement, qui ne savent pas maîtriser tous les paramètres à la prise de vue. Mais en fait, ça, c'est une présomption qui est certainement pas vraie. Parce qu'un photographe ne peut simplement pas travailler. Donc là, le cas dans un studio est différent, en fait, parce qu'on maîtrise intégralement, en fait, ces paramètres de prise de vue, à savoir la lumière, l'exposition. On peut mesurer, en fait, avec une cellule. On a vraiment le temps de tout soigner, tout chiader. Mais lorsqu'on travaille à l'extérieur, il y a quand même... le photographe doit toujours faire face aux impondérables. Il y aura donc toujours des photos... pas vraiment parfaitement exposé parce qu'on n'a pas le temps effectivement d'utiliser une cellule externe ou l'automatisme de l'appareil dévie un peu. Et on n'a également pas toujours le temps de bien déterminer la balance de blanc. Donc là, dans ce cas-là, même pour un photographe de voyage, en fait, c'est primordial, ou un photographe professionnel de toute façon de reportage, c'est primordial de pouvoir intervenir justement sur ces paramètres-là afin d'optimiser son image.
Ce qu'on reproche souvent en RAW, par contre, c'est le fait... Enfin, il y a une manipulation en plus. On va y revenir parce qu'on va parler dans un instant des logiciels. Et puis, ça prend beaucoup plus de place sur les cartes, sur l'archivage, etc.
Oui, parce que cet argument est un peu fallacieux aujourd'hui, où on a effectivement des disques durs de très, très grande capacité. On a des ordinateurs, en fait, dont la puissance de calcul ne cesse d'augmenter. Et on a des cartes également, style Compact Flash ou SD Card, qui sont de moins en moins chères. Donc effectivement, cet argument du RAW égale poids de fichier lourd n'est pas vraiment recevable, en fait. Et moi, je trouve que les fabricants font aussi un grand pas vers l'avant parce qu'ils proposent aujourd'hui, pas seulement Nikon, mais aussi Canon, commencent à proposer un format RAW compressé. Donc le fameux S-RAW, dans les nouveaux boîtiers 40D, et le 1DS Mark III, ils intègrent ce format-là. Donc, ça permet de gagner de la place sur la carte. Une image RAW n'occupe finalement que peu de plus qu'une image JPEG.
Et le deuxième reproche qu'on fait généralement au RAW, c'est le temps de traitement. C'est le fait qu'il y a une étape supplémentaire. Mmh. Et c'est certainement vrai pour la personne qui vide sa carte mémoire dans la borne pour les faire imprimer.
Absolument, oui.
Je ne suis certain que c'est vrai, aujourd'hui en tout cas avec les logiciels, les nouveaux logiciels qu'on a, je ne suis pas certain que c'est vrai pour la personne qui prend la peine de télécharger sur son ordinateur, qui regarde un peu ses photos, qui les imprime ou même qui les envoie sur un site d'impression ou même qui après grave un CD pour les porter à la borne. C'est-à-dire la personne qui passe par l'étape de l'ordinateur. Et justement, parce qu'on a une foule de nouveaux logiciels qui sont arrivés et qui simplifient beaucoup les choses. Comment est-ce qu'on peut choisir et décider en finale du logiciel de RAW? Quels sont les critères qu'on peut utiliser pour décider? Comment est-ce qu'on peut choisir son logiciel en finale?
C'est vrai que le premier critère est déjà le système d'exploitation qu'on a et effectivement les logiciels qui sont compatibles avec. Après, le deuxième critère, c'est effectivement certains logiciels comme notamment Lightzone par exemple ne sont compatibles qu'avec des processeurs qui fonctionnent sous le protocole SSE2. Donc, si on a un processeur un peu ancien, on peut malheureusement pas en bénéficier, en fait. Ces logiciels-là, ce ne s'installeront pas. Les tout derniers logiciels sont tous compatibles de processeurs à double cœur, ce qui est un gros avantage parce qu'ils amènent effectivement une amélioration de la vitesse parfois spectaculaire. Ensuite, on choisit aussi son logiciel de conversion par rapport au logiciel qu'on utilise. Actuellement, la discussion fait rage entre ceux qui utilisent un catalogue d'images genre iView, Media Pro, qui ne sont de ce fait ne pas prêts en fait, de passer un logiciel tout en un intégré qui fait tout du catalogage jusqu'au développement, conception de pages web et à l'impression. Donc là, je parle notamment de Lightroom et de Aperture. Et il y a aussi les photographes qui n'ont pas encore d'autres logiciels ou qui sont prêts à passer en fait à un seul unique logiciel, Lightroom ou Aperture, pour gagner en facilité et gagner en rapidité.
On entend souvent dire qu'en final, Lightroom ne sert à rien si on a déjà Photoshop CS3. Je me suis fait arnaquer quand j'ai acheté Lightroom ou pas?
La différence entre Lightroom et Photoshop CS3 en fait est assez marquée. Photoshop CS3 c'est un logiciel en fait passe-partout qui fait pas uniquement pour les photographes mais aussi pour les graphistes, pour les web designers, etc. Donc on a effectivement une multitude d'outils qui sont greffés sur un moteur central, ce qui complique un peu la chose, qui n'optimise certainement pas la rapidité de traitement. De l'autre côté, Lightroom en fait c'est un logiciel vraiment conçu pour les photographes.
Moi, je constate à l'usage que je classe toujours mes photos en trois catégories. Celles dont je vais rien faire, qui sont ratées, floues, pas intéressantes. Celles qui sont bonnes, mais sans plus, que je veux développer, notamment toutes les photos souvenirs, les photos famille, etc. Et puis, les quelques photos sur lesquelles je vais aller un peu plus en profondeur, que je veux vraiment tirer en agrandissement, etc. Je constate, apparemment, jusqu'à présent, qu'en pratique, ce que je fais, c'est tout ce qui est non la dernière catégorie, je la traite dans Lightroom. Et puis la dernière catégorie, je la lance dans Photoshop Surtout maintenant avec les nouveaux outils d'édition non destructrice, la possibilité de mettre des filtres flous sur lesquels on va mettre un calque, etc., sans aller toucher même au DNG, même au fichier RAW de départ. Est-ce que ça semble un usage raisonnable? Enfin, est-ce que ça semble être dans la philosophie des choses?
Oui, c'est absolument raisonnable. Moi, effectivement, je prône que tu vas aussi loin que tu peux dans Lightroom et tu passes ensuite les images. Effectivement, que tu vraiment peaufiner, que tu veux vraiment chieder en fait, ou sur lesquels tu veux appliquer justement un traitement sélectif, ça effectivement, on le fait le mieux dans Photoshop.
Un petit peu le dommage, c'est les 2-3 trucs qui manquent dans Lightroom quelque part, mais c'est une V1 aussi, hein, V1.1.
C'est une V1.1.
C'est les outils de contraste local, les outils de flou local, de netteté locale, d'accentuation locale. Et des outils de colorimétrie locale.
Effectivement, mais il y a la possibilité, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a un autre logiciel en fait, qui est assez intéressant, c'est Lightzone, d'un petit éditeur californien, Lightcraft, en fait, qui permet justement la correction sélective sur des zones de l'image. Et la sélection est très très simple. On travaille effectivement sur des calques de réglage qui sont très très faciles à mettre en œuvre, beaucoup plus faciles que Photoshop. Et avec Lightroom, tu as la possibilité de choisir un autre logiciel comme Lightzone ou DxO Optics Pro comme éditeur externe. Donc tu peux effectivement envoyer une image à partir de Lightroom dans Lightzone, retravailler cette image zone par zone, puis de l'enregistrer pour la récupérer ensuite dans le catalogue de Lightroom. Si tu veux, pour les photographes, c'est très intéressant puisque la manière de procéder en fait dans Lightroom est parfaitement intuitive par rapport à Photoshop CS3 qui nécessite quand même un certain temps d'apprentissage pour justement bénéficier de tous ces avantages.
Et puis c'est vrai qu'en final, dans Photoshop CS3, pour l'immense majorité des photos, tout ce qu'on fait, c'est les ouvrir dans ACR, les sauver en JPEG. Ouvrir la suivante, la sauver en JPEG, ouvrir la suivante, la sauver en JPEG.
Le grand avantage de Lightroom, justement, c'est qu'on peut faire un traitement par lot, en fait, très très simplement. On peut exporter, effectivement, toute une série de fichiers après les avoir ajustés. On ne peut pas même dire traiter, puisqu'on ne fait rien en réalité, on ajuste. Et l'avantage aussi, c'est que lorsqu'on paramètre Lightroom et Photoshop pour que les modifications sont enregistrées dans un fichier XMP qui n'est pas dans le catalogue, mais à côté du fichier RAW, on peut effectivement atteindre une compatibilité parfaite entre ces deux logiciels. Donc ça veut dire si jamais on ouvre une image dans Bridge 2 ou dans Camera RAW, tous les réglages qu'on a fait dans Lightroom sont pris en charge et s'affichent correctement.
On va revenir à la sélection de logiciels parce qu'on est parti là sur Lightroom à fond. Premier critère, la machine, le matériel dont on dispose, tant au niveau OS qu'au niveau hardware, matériel. Et puis, quels sont les autres critères?
Et puis les autres critères, effectivement, c'est la rapidité et le fait de pouvoir faire un traitement par lot, justement sans bloquer la machine. Parce qu'en fait, les premiers logiciels RAW, lorsqu'ils arrivaient sur le marché, ils ne permettaient pas ça. Donc simplement, lorsqu'on voulait développer une image, on ne pouvait pas continuer à traiter une autre parallèlement. Ce qui est très 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 contraignant. Donc actuellement, il y a plusieurs logiciels sur le marché qui permettent justement ça, et aussi grâce à leur support multiprocesseur, effectivement, c'est très simple. Ça ne mange pas trop de ressources. Photographe qui travaille beaucoup et qui revient d'un reportage avec quelques centaines d'images, il ne peut pas, en aucun cas, en fait, travailler ces images une par une. Ce n'est pas possible. On peut pas passer des heures et des heures, voire des nuits entières, en fait, à développer ces fichiers RAW. Pour dire ça, en fait, le RAW peut être aussi efficace que le JPEG, voire plus, parce que l'idée que le JPEG est un fichier finalisé, parfait, qui ne nécessite plus aucun traitement, en fait, cette idée-là est complètement fausse. Il faut effectivement partir du principe que même les fichiers JPEG, ils ont toujours besoin d'un traitement, si ce n'est que pour améliorer l'accentuation ou pour éventuellement faire des petites corrections couleurs lorsque la balance des blancs n'est pas parfaite. Et à ce moment-là, le traitement prendra certainement plus de temps que le traitement dans Lightroom ou dans d'autres logiciels modernes, contemporains, à partir du fichier RAW.
Et là, je te rejoins d'autant plus que tu parles à l'instant d'une correction colorimétrique ou autre. C'est vrai que si on le fait à partir d'un JPEG, on a des risques de montée de bruit, on a des risques de bascule couleur, etc. Ce qui fait qu'en final, on doit alors parfois reprendre chaque fichier un par un pour aller masquer ces effets. Là où si on a travaillé en RAW, on a sur la première image de la série fait son réglage, et puis comme tu dis, voilà. On lance le traitement batch, et on sait qu'on n'aura pas ces artefacts.
Et on pourra même homogénéiser en fait, facilement toute une série d'images en copiant en fait, les réglages de la première image et en les collant sur les autres. Donc ça, effectivement, dans la plupart des logiciels le font. Donc il y a Nikon Capture, bien sûr Canon DPP, Capture One, Aperture et Lightroom en fait, sont capables de faire ça. Donc on peut effectivement copier-coller des réglages et ainsi parcourir en fait, un dossier d'image, même volumineux, en rien de temps. Et ensuite lancer un traitement par lot qui sera très très rapide.
On a un peu l'impression maintenant sur le marché qu'il n'y a plus qu'Aperture et Lightroom. Et tous les autres, les acteurs un peu plus historiques comme Capture One que tu viens d'évoquer, Nikon Capture, etc., n'ont à la limite plus de raison d'être. On n'entend plus en tout cas en presse que Lightroom et Aperture. Est-ce que cette impression correspond à une avance énorme de ces deux logiciels ou est-ce que non, les autres produits ont encore un réel intérêt ?
Ce qui est très très séduisant chez ces deux logiciels, et notamment que Aperture et Lightroom permettent un traitement en fait de A à Z. Donc effectivement, dès l'importation de l'image jusqu'à sa préparation à une utilisation finale. Et ça effectivement c'est très très important, parce qu'auparavant il fallait ouvrir deux voire trois logiciels pour finir un travail, ce qui prenait beaucoup plus de temps logiquement. Tout en permettant peut-être plus de possibilités d'amélioration, de modification de l'image. Et surtout, ça nécessitait d'apprendre trois logiciels. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire, sachant que Photoshop CS3 nécessite quand même un apprentissage de quelques mois, voire quelques années.
J'ai l'impression, en t'entendant parler, que tu présentes le choix un peu comme des compacts contre un réflexe. C'est-à-dire, d'un côté, Lightroom Aperture, le logiciel tout en un,
oui.
Et de l'autre côté, les autres produits où on va composer son propre système, donc avec plus de flexibilité,
exactement,
un certain
oui.
nombre d'avantages, et du coup, plus de difficultés, un coût peut-être plus élevé, etc.
C'est vrai que le système intégré apporte vraiment un grand nombre d'avantages, mais il ne peut pas, en aucun cas, être aussi performant, au final, qu'un système composé en fait, de trois logiciels différents. Surtout si on compte Photoshop, en fait, dans ce trio que je mentionne.
Ok, je comprends les avantages de l'intégrer, mais dans ce cas-là, quelle est la raison d'être ? Quel est l'avantage des logiciels classiques, entre guillemets ?
Alors justement, c'est une très, très bonne question. Moi, je pense que si un logiciel traditionnel, on pourra dire en guillemets, si un logiciel veut survivre aujourd'hui dans ce marché devenu extrêmement concurrentiel, parce qu'effectivement, il y a deux géants, Apple et Adobe, qui se confrontent effectivement sur ce marché qui est actuellement en croissance, puisque le nombre de possesseurs de réflexes ne cesse d'augmenter. S'ils veulent concurrencer en fait ces deux, il faut qu'ils se recentrent sur une spécialité. Donc, on avait mentionné en fait Nikon Capture, par exemple, qui permet un traitement sélectif, ce que fait actuellement aucun autre logiciel sauf Lightzone. Mais c'est vrai que si un logiciel ne propose que le traitement RAW et rien d'autre, il aura effectivement du mal à s'imposer sur ce marché-là.
Et donc, tu veux dire, est-ce qu'on peut s'attendre à voir Capture One, par exemple, c'est aussi une stratégie qui pourrait suivre, eux, intégrer un logiciel de catalogage et intégrer ce genre de choses, ou est-ce que tu crois qu'ils vont plutôt essayer d'aller très profond dans ce qu'ils font ?
Non, je pense que ça, c'est certainement une chose qu'on verra venir. Je ne pense pas que Fastban, par exemple, pouvait continuer avec, même avec la dernière version 4.0 qui vient sortir en fait en version bêta. On voit très très bien qu'ils ont extrêmement de mal à s'imposer sur ce marché parce qu'il faut proposer à la fois en fait les fonctions de catalogueur, de créateur de pages web, d'outils d'impression. C'est très très difficile pour une petite société, pour une petite équipe de développeurs en fait de faire face à toutes ces fonctionnalités à intégrer. Et de ce fait-là, je pense que Lightroom ou Aperture vont certainement s'approprier certains de ce logiciel ou justement une partie qui est intéressante par la qualité de conversion ou par justement des fonctions spécialisées, genre la correction des distorsions, du vignettage et des aberrations chromatiques. Ils vont les intégrer en tant que module.
Et est-ce qu'on peut s'attendre, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de la compétition, donc qui quelque part diminue la barrière d'entrée, c'est plus facile de faire du RAW maintenant qu'il y a un an, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir diminuer encore pour arriver jusqu'à des produits grand public, ou est-ce que tu crois que le RAW va quand même plutôt rester, malgré tout, le format du photographe passionné, expert et au-delà ?
Eh ben, je pense que le RAW, il va de plus en plus fort, parce que quand on voit le développement, notamment chez les appareils compacts, Canon qui avait un modèle, en fait, le G7, qui ne proposait que le format JPEG, sort aujourd'hui un appareil, le G9, qui est un peu amélioré, mais qui, en plus de ça, propose enfin, ou plutôt de nouveau, parce que les anciens modèles le faisaient, le format RAW. Donc je pense que le format RAW va certainement revenir dans un certain chrono d'appareils, hein, tant qu'il reste un marché, parce que les appareils compacts vont se faire concurrencer par les téléphones portables avec modules photo intégrés. Et tant qu'il reste ce petit marché, ils vont peut-être enfin se plancher sur une amélioration de la qualité photographique, justement. Et là, le RAW aura toujours sa bonne place.
Eh bien, Volker, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré et pour toutes ces explications qui sont vraiment intéressantes. J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir plus tard sur Déclencheur.
Je te remercie, Benoît, et surtout, je te remercie pour m'avoir accueilli ici et entendu. À bientôt sur déclencheur.com, peut-être.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous visitez simplement le blog www.déclencheur.com. Vous pouvez laisser un commentaire texte gratuitement. Vous pouvez utiliser la boîte vocale pour laisser un commentaire vocal. Tout d'abord, des messages d'encouragement reçus de RSA Godzilla, Gerlong, Freakdef, Sid, Stephen, Michel, Vincent M, Photoman. Merci à vous. Les inscriptions ont commencé à arriver pour la visite du salon de la photo, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de demandes de cartes et de badges qu'on a reçues depuis que ce duo est en ligne. J'étais il y a quelques instants dans le bureau de Pascal, il y a des piles d'enveloppes prêtes à partir, c'est incroyable. Les commentaires proprement dit, avec tout d'abord une réaction de Sébastien qui dit que Déclencheur devrait participer au Blog Action Day. Le Blog Action Day, c'est une journée où tous les blogs inscrits vont parler de leur thématique, vont parler d'environnement dans leur thématique. Donc en l'occurrence pour Déclencheur, c'est l'environnement dans la photo. L'environnement, c'est un thème qui mobilise depuis de nombreuses années déjà. Donc évidemment, j'avais l'intention d'y participer. Et je vous ouvre la question, quel thème aborder ce jour-là pour parler de l'environnement et de la photo ? Dans les autres commentaires, un petit coucou de Monique, rencontrée au Yulbis Bruxelles. J'en profite pour saluer les divers blogueurs rencontrés ce jour-là, et en particulier Cédric de 64K. 64K.be, c'est un blog que je trouve tout à fait charmant, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer Cédric. L'ami Max de Photovore, qui me signale qu'il relaie maintenant un certain nombre d'épisodes sur Photovore, ça fait très plaisir. Photovore, si vous ne connaissez pas, on va dire que c'est une espèce de dépéreview en français, c'est un blog qui suit toute l'actualité de la photo. Valentino signale de la même façon qu'il a repris Déclencheur sur son blog. Vous êtes un certain nombre maintenant à relayer Déclencheur dans votre blog ou sur votre site ou sur des forums. Je vous en remercie. Pas mal de commentaires sur la rencontre avec Peter Yann Louis. Et pour commencer, une réaction de Gérald Géronimi qui dit l'épisode est passionnant, mais à son avis, la photo de mariage, ça implique beaucoup plus de passion, beaucoup plus de plaisir photo que ce que Peter a l'air de le dire. Mr. Saul réagit également pour renforcer une remarque de Peter en disant « Il est bon de sortir de la règle des tiers, mais uniquement quand on la connaît ». Une réaction qu'il résume dans une formule entendue lors d'un cours photo, disant « On marche très mal sur le vide ». Mr. Saul donne également les références du livre du Booba cité par Peter. Peter qui d'ailleurs répond à ces deux commentaires en disant d'abord « Effectivement, c'est bien ce livre-là, mais, et ça me fait très plaisir de le lire, maintenant quand quelqu'un me demande de l'info sur la photo, c'est vers Déclencheur que je le renvoie, merci beaucoup Peter ». Sur la remarque de Gérald concernant la passion, Peter veut clarifier un petit peu son propos. Ce sur quoi il voulait surtout insister, c'est le besoin d'assurer les photos que les mariés ont besoin, que les mariés ont demandé. Et puis seulement après, on peut se permettre d'être plus créatif et de venir apporter une touche personnelle. Tant qu'on est dans les discussions, une petite discussion entre Mickey et Maxime Grislin, Mickey ne comprenant pas en quoi le fait de travailler au grand angle donne une photo plus contemporaine. Ce que Maxime explique en disant le fait de travailler au grand angle va nous obliger à travailler très proche du sujet, ce qui va entraîner des déformations. Et donc ça, après, c'est un effet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une affaire de goût et de sensibilité. Maxime nous envoie un lien vers une photo, justement illustrant cela. Gaps trouve le sujet parfaitement placé dans le temps puisqu'il vient de réaliser son premier reportage de mariage et lui veut particulièrement insister sur l'importance du dialogue et de la rencontre avec les mariés. Danes nous pose une question pratique. Il a voulu essayer un filtre polarisant circulaire, je précise bien circulaire, donc c'est pas le problème classique circulaire linéaire, sur un EOS 400D, et il constate que l'autofocus ne fonctionne pas correctement, un problème qu'il n'avait pas avec son EOS 600, donc un EOS argentique. Je répète encore une fois que c'est bien un filtre circulaire, donc inutile d'expliquer la différence circulaire linéaire, et il demande comment le résoudre. Alors, je n'ai pas, vous vous en souvenez, d'expérience avec les EOS, donc j'ai pas la moindre idée, mais j'espère que parmi vous, certains canonistes pourront l'aider. Erwan, qui découvre le bloc avec plaisir, suggère que j'ajoute systématiquement la durée dans le titre des épisodes. Je vais pas le faire comme ça, mais il y a une évolution du bloc qui est en cours et qui notamment effectivement rajoutera pour chaque épisode de façon très lisible la durée de l'épisode. Sur l'épisode HDR, un commentaire d'Alpogre qui donne quelques compléments techniques et qui dit « Attention, le HDR n'est vraiment pas limité à ces images au ton étrange et au contraire, il y a même une tendance aujourd'hui à développer ce qu'on a baptisé le « true tone HDR », c'est-à-dire le HDR réaliste. » Et il nous donne un lien vers un groupe Flickr qui lui est dédié. Sur le même épisode, Spooks a fait des essais avec Photomatics et trouve les images très bruitées. Jean-Michel Sanglera lui répond en disant qu'il a le même phénomène avec Photomatics et qu'il doit systématiquement retraiter les images à la sortie de Photomatics pour atténuer le bruitage. Mais si quelqu'un a une autre suggestion, on est évidemment preneur. Frédéric Crozat nous donne des nouvelles sur The Gimp en nous annonçant la sortie de la prochaine version majeure, la 2.4, qui sera toujours uniquement en 8 bits, donc pas de support du 16 bits, mais qui par contre intégrera la gestion des profils couleurs et un certain nombre d'autres améliorations. Il annonce que la prochaine version majeure du GIMP, la 2.6, devra utiliser un nouveau moteur graphique qui permettra entre autres des modifications non destructives des images et donc en particulier des couches d'ajustement. Suite au duo sur Photoshop Lightroom pour les photographes, Tupéfala et qui l'ont lu confirment l'intérêt de ce livre. Maxime Grislin demande s'il y a des nouvelles pour Lightroom 1.1. Alors, Maxime avoue qu'il n'a pas encore eu le temps d'écouter le duo, mais pour répondre de façon très succincte, Volker nous l'explique. Un certain nombre d'éléments de la version 1.1 sont déjà introduits dans le livre. Mais surtout, Martin Evening a produit un PDF qui complète le livre, et ce PDF est en cours de traduction et sera disponible bientôt via questionphoto.com. Voilà, il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le blog www.déclencheur.com. L'abonnement est gratuit, ça signifie simplement que vous recevez tous les épisodes automatiquement. À bientôt !